Cet enregistrement est le fruit d'une rencontre entre les élèves du lycée général de Mirande le 11 avril 2023 avec Émile Navarro, réalisateur du film « Des années de silence qui interroge les anciens appelés de la guerre d'Algérie » et Rémi Serre de la 4ACG, une association d'anciens appelés qui ont décidé de reverser leur pension de guerre à des projets de solidarité en Algérie et ailleurs. Cette rencontre a eu lieu à l'initiative des professeurs d'histoire géo, M. Néré et Mme Buffard, le 11 avril 2023. Seconde partie.
On a fait la guerre, donc, et comme j'ai dit dans le film, après tu reviens à la vie civile, personne ne te demande rien, ça a été assez dit. Et tu continues ta vie plus ou moins bien, tu te fais prendre par ton travail, ta famille, etc. Et puis tu arrives à 65 ans. Tu arrives vite, hein, mes pieds. Et à 65 ans, tu as droit, si tu le demandes, à une retraite d'ancien combattant, qui était de 430 euros, qui est maintenant de 800 euros et quelques. Et donc, par an, hein, quand même, pas tous les mois. Et donc, nous, les quatre paysans internés, Lyonnais, on s'est réunis, on a dit cette retraite, on ne peut pas prendre cette retraite. Quoi. C'est de l'argent trop imprégné de mort, de misère, de torture. On ne peut pas prendre cet argent. Alors on voulait le refuser, et puis on a dit peut-être qu'il vaut mieux le prendre et le redonner. Donc nous avons créé l'association des anciens appelés contre la guerre. Et à ce jour, nous sommes sans rémunérés, nous sommes une centaine, puisque les gens sont morts ou sont dans les EHPAD, ils ont besoin d'argent, une centaine qui reversons la totalité de cette pension. Et puis nous avons ouvert la porte aux amis, n'importe qui d'entre vous peut devenir ami, moyennant la somme de 30 euros ou plus si il y a envie, et nous sommes 400 sur toute la France. La dernière assemblée générale a été à Albi, il y a 15 jours. Nous étions 110 adhérents, bonnes. C'est trop, mais en tout cas, nous essayons d'apporter une goutte d'eau pour réparer le mal que nous avons fait à ce peuple. Nous sommes riches, nous avons 80 à 100 000 euros à distribuer tous les ans. Depuis le début, nous avons distribué quand même 1 million d'euros. On a ouvert aussi la porte à la Palestine, puisqu'il me semble que la Palestine, c'est aussi une guerre coloniale. Non, nous donnons 30% à la Palestine et 10% pour des cas spéciaux où il me semble qu'on doit aider. Donc, nous donnons qu'à des associations. Par exemple, à Boumerdès, où après le tremblement de terre, il y avait les femmes, parce que c'est surtout les femmes qui ont créé ça. On crée une association pour aider les veuves et les orphelins. Il y a des endroits où c'est des associations comme à Boumerdès pour aider les jeunes dans la culture, garçons et filles, et de la musique, du théâtre, et tout ce qu'on peut faire quand on est une association culturelle. Nous avons ici aidé aussi de l'agriculture de montagne, où des petites structures se créent, puisque il n'y a pas trop de travail en Algérie, et un retour à la terre, peut-être un peu plus qu'ici même. Donc, pour ma part, je suis allé deux fois au village de Tazla, village très symbolique, puisque pendant la guerre, il avait été détruit. Il était dans une zone interdite. Et la plupart de ces villages n'ont pas été reconstruits, les gens sont restés à la ville, mais là, il y a 17 familles aujourd'hui, et on reconstruit ce village, et qui essaie de revivre partiellement au moins de l'agriculture. Alors nous avons mis l'eau dans les cultures vivières, nous avons aidé à acheter des arbres fruitiers, nous avons acheté un car pour amener les gens à l'école, les jeunes à l'école. Nous avons mis les poubelles dans le village, tout n'est pas parfait, mais on a créé des liens avec ce village, c'est une façon à nous. Recréer des liens, c'est ce que nous recherchons, avec ces gens que nous avons martyrisés pendant 130 ans. Et alors d'autres exemples d'associations, voilà, vous prendrez des tracts tout à l'heure, là, et vous regarderez en tout cas. Nous redistribuons la totalité de cet argent, puisque nous n'avons pas ni de salariés, ni de... Oui, on a quelques frais, mais c'est tout. On redistribue pratiquement tout ce qui rentre. Et nous faisons des voyages aussi. Jusqu'au Covid, là, nous avons fait 8 ou 10 voyages. Tout adhérent qui... ou ami qui veut venir en Algérie. Nous avons fait 7 ou 8 voyages, une moyenne de 15 ou 20 personnes. Nous rencontrons des associations que nous aidons, nous rencontrons des municipalités. Il y a des moments très émouvants, il y a des moments où on est très bien reçus. Il y a un village où nous avons planté un olivier, un signe de réconciliation. Et il y a un autre village à côté de Constantine, où la municipalité nous recevait. Et là, le maire nous a dit que nous avons été des gens très, très méchants. Vous avez été odieux. Pas un chat n'avait la vie. Vous avez tué mon père, vous avez tué ma mère, vous avez tué mon beau-père, ma belle-mère. À l'époque, on avait 5 ans et c'est nos oncles, nos tantes qui nous ont élevés. Et puis voilà, et puis il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis voilà que parmi nos 20 personnes qui étaient là, ou 18, il y en a un parmi nous, un parisien, un méchant, qui dit rien d'abord. Il s'avance et puis il ne parlait pas. Et puis au bout d'un moment, il dit, moi j'étais au bataillon d'à côté là, donc je ne me rappelle pas le nom. Et c'est peut-être moi qui participais à cette tuerie. Un moment de silence où c'est difficile de faire repartir la conversation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'après-midi, ce gars-là téléphone. Il dit, je voulais parler à ce monsieur qui ce matin a dit qu'il avait peut-être contribué à tuer ma famille. Et il l'a invité à manger le soir avec lui. Et il avait invité ses enfants et ses petits-enfants. C'est un exemple parmi d'autres où nous essayons de par nos actions de réconcilier, de réparer un petit peu, un tout petit peu, tout ce que nous avons fait subir à ce peuple. Des voyages, donc, ont été arrêtés pendant le Covid. Là, on parle de reprendre, mais c'est très difficile parce que là-bas, c'est devenu une vraie dictature. Nous ne pouvons plus envoyer l'argent aux associations directement parce qu'il faut passer par le gouvernement pour contrôler d'où vient cet argent. Non, je ne sais pas comment on va faire cette année, parce que les associations que nous soutenons sont toutes contestataires, sont pour le... Comment on appelle ça, là le, enfin, pour la...
Le mouvement Irak.
Voilà, le mouvement Irak, merci. Et donc, le fait d'aller là-bas, elles ont du mal à nous recevoir, parce que ça les marque du coup encore plus. Et nous ne savons pas trop comment nous allons redistribuer cet argent à ces associations qui nous recevaient, avec qui nous établissions des liens et que nous avions projeté de faire venir des membres des associations en France pour faire un échange. Donc, on va peut-être essayer d'y aller avec une voiture pour être moins marqué, deux voitures de 4 ou 5, mais on ne refera jamais plus de voyage avec des cars et des groupes de 20 parce que c'est, pour le moment, avec des boules là, c'est plus possible. Voilà. Et après, nous intervenons dans les écoles, nous, comme ici, nous essayons de dire que la guerre, il ne faut pas la faire. Et que surtout, il ne faut pas y aller. Parce que là, imaginez, vous avez 15-16 ans, ou 17, quel âge moyenne, 17-18. Imaginez que dans 2 ans, on vous appelle, on vous dise, il faut aller à la guerre. Eh bien, je vous encourage à dire non. Nous, on n'a pas su faire ça. Nous intervenons dans les écoles, donc, et nous faisons des voyages, et puis... Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on fait. On fait une assemblée générale tous les ans. On se retrouve toutes les régions de France. On va, cette année, c'était à Albi. L'année dernière, c'était à Vichy. Et puis, l'an prochain, on va voir. Et on échange tout ce que nous essayons de faire chacun dans notre coin. Et aussi, ce qui a été dit dans le film, c'est que les nouveaux qui arrivent, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais... Il y en avait pas mal chaque année de nouveau. Nous les invitons à raconter leur histoire. Et leur histoire, c'est souvent qu'ils la racontent pour la première fois. Il y en a plein qui disent, j'ai jamais osé en parler. Et il y a déjà des témoignages très émouvants, et les gens, ils n'arrivent pas à la fin. Ils se mettent à pleurer, on arrive à la fin. Ah, alors, si par notre association, on a libéré un peu la parole de ces gens qui arrivent en fin de course, si on a par notre action recréé quelques liens avec l'Algérie que nous avons combattue, ben voilà, on aura fait notre petite part.
D'ailleurs, moi je voulais réagir à ça. On a l'impression dans ton film qu'il y a des personnes qui. C'est la première fois. Enfin, je pense que ça se voit hein, que le témoigner reste très 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 sensible et très difficile.
Ah oui. Il y en a un qui pleure. Il y a un monsieur qui pleure à un moment donné.
Oui, oui, oui.
Je ne peux pas arriver au bout.
Que j'arrête la caméra parce qu'il est. Il y a beaucoup d'émotion dans sa parole, quoi. Ouais. Mais moi, si je peux prendre la parole. Hein,
je vous en prie, monsieur.
Il y a quelque chose qui me. La guerre d'Algérie, il ne fallait pas la faire.
Ah, mais ça,
point barre. Non, mais ça on est allé là-bas pourquoi? Pour prendre leurs richesses, le pétrole, le gaz, faire péter des bombes nucléaires pour faire des essais nucléaires. Après, on est parti dans les îles. Mais voilà, c'est le problème, il est là. On est allé leur prendre leurs richesses. Moi, je lutte tout le temps contre ça. Quoi. C'est pas normal. Tout pays doit être indépendant.
Peut-être que la question n'est pas très pertinente, mais êtes-vous encore aujourd'hui traumatisé par cette guerre?
Je ne sais pas quoi répondre, parce que si j'avais pas fait la guerre, je serais comment? Je suis comme je suis. Et si j'avais pas fait la guerre, je serais peut-être autrement. Mais en tout cas, je ne supporte pas la souffrance. Je suis, je ne sais pas si c'est tant pis, je vais le dire, je manifeste pas mal, je casse que. Là, j'ai du mal à marcher, donc je manifeste moins, mais j'avais été très actif à Sivens, si vous avez entendu parler de Sivens. Moi, j'étais à 10 km de cette ZAD et j'avais beaucoup participé à la ZAD de Sivens. Rémi Fraisse a été tué. Et là, j'ai eu l'impression que je revoyais la guerre. Et ces flics qui couraient derrière nos jeunes qui essayaient de leur échapper, tous ces blessés, nous avions quand même créé une tente pour soigner les blessures. Ce n'est pas des manifestations. C'est des manifestations comme aujourd'hui, c'est presque la guerre. Quoi. C'est, d'ailleurs, c'est des armes de guerre, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc ça, je le vis très mal, quoi. Je le vis très 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 mal, je ne peux pas. J'ai peur déjà, ouais, je ne suis pas très courageux. Et puis, je sais que je faisais la navette entre le front, parce qu'il y avait un endroit où il y avait le front, où les gendarmes, je ne sais pas, où les CRS, je ne sais pas, mais tout ça pour moi, c'est du bleu. Tout le bleu, c'est pareil. Et donc, oui, vraiment. Il y avait un front, quoi. Il y avait les jeunes qui envoyaient des pavés ou des racines. Et puis il y avait les grenades lacrymogènes et tout le reste. Et donc je faisais la navette entre les blessés de là et puis la guitou, nous avions à l'arrière créé une petite infirmerie. Donc ça me rappelait la guerre d'Algérie, c'est tout à fait ça, mais c'est bien sûr, c'était pas. C'est pas la même dimension. Ça, je le vis très mal, quoi. Je le vis très mal, je ne supporte pas la souffrance.
Pour rebondir sur la question de Louis-Pierre, comment vous avez fait pour réussir à surmonter un peu cette honte que vous avez.
Surmonter quoi?
Surmonter la honte que vous avez ressentie quand vous êtes rentré.
La honte. La honte. La honte. On n'était pas tout à fait responsable. Donc, honte, je veux bien, mais on n'était pas tout à fait responsable du moment qu'on était parti. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc, tu pouvais te comporter comme un appelé raisonnable, parce que des appelés gentils, il n'y en avait plus. Parce que quand tu as des copains qui tombent, tu deviens guerrier. Mais un appelé raisonnable, un appelé vraiment féroce. Donc, beaucoup d'appelés ont été des gens raisonnables, mais
en tout cas dans ce que j'ai connu, parce que dans la Légion ou dans les parachutistes, c'était pas le même truc. Hein. Nous, on était un régiment d'infanterie, 39e RI. Donc, on était, si Dieu, des petits combattants. Et la Légion, quand elle arrivait dans un village, les poules partaient.
Et ce qui est important dans cette occasion que vous avez de rencontrer l'appelé qui a été donc engagé dans ce conflit, c'est de voir la diversité des acteurs de cette guerre. Et du côté donc des combattants qui étaient chargés de combattre pour le maintien de l'Algérie française, voir la diversité des attitudes, voir également l'évolution des points de vue, l'évolution également de la psychologie des combattants. Et je trouve que M. Serre nous fait toucher du doigt cette complexité de la guerre qui fait que la guerre n'est jamais manichéenne. Il est difficile d'opposer simplement une zone blanche, une zone noire. Les situations sont beaucoup plus complexes que cela.
À ce sujet, quand il y a eu le putsch de l'OAS, que quatre généraux ont décidé de garder l'Algérie française en accord avec quelques riches colons, on a frôlé la guerre civile quand même. C'était en 62. Ils sont venus, il y a eu des avions qui sont venus sur Paris. On a essayé de tuer.
En avril 61.
Oui, merci. Et donc, on a frôlé. Si ces gens-là avaient pris le pouvoir, on était mal partis, quoi. C'était moi qui venais de terminer mon service militaire. On rappelle toujours les moins, les plus près de ceux qui reviennent. Donc, la gendarmerie avait déjà mon nom. On était prêt à être de nouveau rappelé. Et qu'est-ce que c'est qui a sauvé la guerre, qu'il n'y a pas eu la guerre civile? C'est les appelés du contingent. Et c'est des transistors, parce que c'était le début des transistors, c'est-à-dire des postes qui marchaient avec des piles. Ça vous fait drôle aujourd'hui parce que vous n'êtes pas là, mais en tout cas, c'était comme ça. Et ces transistors, De Gaulle a appelé, les appelés à ne pas obéir. Pour une fois, on a dit aux appelés, n'obéissez pas. Et les appelés ont refusé d'obéir, à part quelques parachutistes. Il y en a même qui ont ligoté des capitaines parce qu'ils voulaient entraîner tout le poste vers Alger pour combattre. Ça a été une guerre entre nous, quoi. Une guerre pour l'Algérie française et contre l'Algérie. Et les appelés n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, que c'est une armée de métier, je ne sais pas si ce serait encore plus grave parce que l'armée de métier est obligée d'obéir. Donc, le service militaire, bien sûr, je suis contre parce que je ne suis pas militariste, mais à cette époque-là, ça nous a empêchés de tomber dans le... Je ne sais pas, donc on serait tombé, on était mal parti. Tu peux développer si tu penses que je n'ai pas tout dit, là.
Moi, je n'ai pas fait la guerre.
Non, mais lui, là.
Ah, pardon.
Non, mais j'étais
L'historien.
L'historien, mais j'étais en pleine réflexion parce que je viens d'apprendre que j'étais encore réserviste, donc ça me fait réfléchir. Et je me dis, dans ce contexte où on envisage encore un conflit, on redécouvre ce qu'est un conflit à haute intensité, cette idée-là d'avoir un service militaire qui fait qu'on peut avoir une force indépendante d'une armée de métier qui peut être contrôlée par une hiérarchie, effectivement, c'est une question qui se pose dans nos démocraties d'aujourd'hui. À l'heure où il a été envisagé de rétablir le service militaire, mais au compte tenu des dépenses à venir, 415 milliards sur 4 à 5 ans de dépenses militaires, où on envisage de revenir sur le projet de service national universel, ben voilà, se pose également cette question d'une force alternative, d'une force citoyenne. Votre papa, j'ai bien entendu votre témoignage dans le film, votre papa a fait la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle est souvent présentée comme une guerre de citoyens, c'est-à-dire qu'on a des combattants qui sont allés se battre parce qu'ils ont consenti à se battre. Et je rappelle que les mutineries de 17, ce sont des mutineries de citoyens qui connaissaient bien le combat. Ce ne sont pas des pleutres, hein, ce ne sont pas des lâches qui ont refusé de combattre, mais c'était des citoyens qui étaient conscients de leur devoir de citoyens. Et leur premier réflexe, lorsqu'ils refusent d'aller se battre, ce n'est pas de rentrer chez eux. Leur premier réflexe, c'est de prendre le train et de partir à l'Assemblée nationale pour dire aux députés, voyez ce que l'état-major nous fait faire. Et ils pensaient en particulier aux ordres de Nivelles. Donc voilà, je ne pensais pas que, mais effectivement c'était logique, qu'on ait cette réflexion également sur la place d'une force armée faite de combattants citoyens.
C'est pas pour ça que je suis pour le CNU. Hein.
Mais au sein de la 4ACG, ça discute beaucoup, en tout cas, de tout ça. Voilà, de qu'est-ce que c'est être aujourd'hui une position pro ou antimilitariste, qu'est-ce que c'est les conditions de la paix. On parle beaucoup de la guerre, mais c'est quoi les conditions de la paix? C'est aussi des discussions qui traversent.
On est divisé sur la 4ACG parce que contre la guerre, c'est marqué là, très fort. Contre la guerre, il y en a qui sont pour des guerres justes. Par exemple, pour prendre des cas d'actualité, que l'Ukraine se défende contre la Russie. Ouais. Et d'autres disent non, il faut se défendre contre l'envahisseur, c'est sûr. Ça, tout le monde est d'accord. Mais se défendre avec les armes ou sans les armes. Parce que ce qui compte, c'est le nombre de morts. Un mort, il y en a un de trop. Est-ce que si l'Ukraine s'était défendue contre la Russie sans les armes, elle aurait eu plus de morts ou moins de morts? C'est la question qu'on peut se poser. Par exemple, le Larzac, vous avez tous entendu parler du mouvement du Larzac, où les gens ne voulaient pas de camp, ne voulaient pas de l'extension du camp, ils se sont battus. Eh bien, ils se sont battus sans les armes. Et il y en avait un parmi eux qui a dit, si un jour on tue un flic, on est perdu. Donc, comment se défendre sans les armes? Eh bien, peut-être en sabotant des lignes de chemin de fer, comme en Algérie, en brûlant des fermes, en coupant des pieds de vigne, parce qu'il y en avait beaucoup là-bas, en coupant des orangers, en faisant voir qu'on est là. Il y aurait eu des morts, bien sûr qu'il y aurait des morts, parce que l'armée, s'il avait pris quelqu'un en train de couper des souches, il n'aurait pas fait de cadeau. Est-ce qu'il y en a eu autant? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut des armes pour se défendre contre un envahisseur, ou est-ce qu'il faut se défendre comme a fait Gandhi ou d'autres qui ont réussi à mettre les colons dehors pratiquement sans armes, pas tout à fait peut-être, mais bon, voilà. C'est une question qui reste entière, même au sein de la 4ACG, et on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui disent, oui, on est envahi, allez, on prend l'arme. Et puis c'est l'escalade, tu comprends bien que si on tue ton copain, là, demain tu voudras en tuer deux, et l'autre demain, il voudra en tuer trois. Et ça ne s'arrête pas, et c'est parti. Et le petit jeune, parce que ce sont des jeunes, qui n'est pas un guerrier, devient un guerrier, devient un tueur. Parce qu'on a tué ses copains. Alors où ça s'arrête? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Litzorien?
C'est un constat régulier de voir les combattants devenir sauvages. C'est-à-dire partir, on parle d'ensauvagement, de partir peut-être avec une forme d'innocence, mais confronté à la mort du copain, du compagnon, du camarade, eh bien, de rentrer dans cette logique-là. C'est effectivement un constat régulier dans les conflits du XXe et du XXIe siècle.
Il y a un très bon film là, que j'ai passé à des élèves, L'ennemi intime, où on voit la transformation de ce jeune... capitaine, finalement, qui arrive en Algérie, bercé d'illusions, pacifiste, contre la torture, et qui finalement devient un monstre. On le voit, à force de voir des choses, on s'en imprègne, et psychologiquement, on est complètement transformé.
Mais l'avenir, c'est les drones. C'est les drones qui vont faire la guerre.
Et on en a eu un quand même en Algérie, le commandant de Volardière, qui est, pas le commandant, le général, qui a refusé de faire ce qu'on avait fait en Crante. Il dit que les nazis ont torturé, ont violé, ont volé. Non, je ne suis pas venu ici en Algérie pour faire la même chose. Donc on arrête la torture et il est allé voir Massu et en lui disant que, voilà, que si on n'arrêtait pas cette escalade à la violence, parce que lui dans son secteur, il s'était pris autrement. Il avait essayé de pacifier, lui vraiment de pacifier. Et il avait rallié une partie de la population à sa cause. Donc il avait réussi dans son coin, mais on ne l'a pas laissé faire. Et il est parti. Et il pensait, puisque nous avons rencontré Madame de Volardière, avant qu'elle meure, qui nous expliquait tout ça, lui, il y a longtemps qu'il est mort. Il pensait que ça allait faire boule de neige, qu'il y aurait beaucoup de généraux qui diraient pareil. Il dit, on arrête la torture, on arrête la violence. Et puis il a été tout seul. Et il faut être courageux, là, parce qu'elle nous disait, on a perdu tous les amis. On a été renié de partout. Et ce gars-là, il est parti, il a fait même de la forteresse, c'est-à-dire c'est une prison privilégiée pour les garder un peu. On est moins mal que si on est deuxième pompe. Enfin, c'est quand même de la prison. Et ce gars-là, petit à petit, il est devenu pacifiste. Il est venu sur le Larzac, justement, en disant « faut pas faire la guerre, faut pas prendre les armes ». Lui, un général, qui, quand même, un général, c'est quelqu'un qui commande les troupes. Donc, il y en a eu un seul, d'un dégradé, qui s'est posé la question. On va les appeler, il y en a eu beaucoup plus. On n'en parle pas, on parle surtout des gens qui ont une certaine notoriété. Mais n'empêche, voilà, il y en a eu un.
Aviez-vous d'autres questions à poser, notamment sur le thème de la mémoire, des mémoires de la guerre d'Algérie?
Parce que c'est vrai, même dans votre chapitre, on parle de la mémoire des pieds noirs, on parle de la mémoire des Algériennes. Et c'est vrai que les appelés ne parlent pas, hein, tant que ça. On fait pas, il n'y a pas trop de réflexion sur cette question-là.
Moi, j'ai une question pour Monsieur Navarro. Savoir, entre le début, le moment, donc j'ai compris qu'il y avait un moment un peu fondateur où vous avez eu envie de faire ce film, comment les gens ont accepté de témoigner? Est-ce qu'ils ont accepté de témoigner, on va dire facilement, un élément de réponse? Et vous, comment vous l'avez reçu, ça, ces témoignages?
J'ai commencé par Rémi, mon cheminement pour faire ce film. Et Rémi m'a convaincu il m'a renforcé dans mes idées, quoi. En fait, il y avait... Comment il s'appelle?
Tréou.
Et tous les deux, ils m'ont convaincu, à fur et à mesure qu'on avançait, en posant des questions et tout, qui répondaient, c'est leur vécu, et tout ça, ça m'a convaincu qu'il fallait que je continue, quoi, qu'il fallait faire ce film. Voilà, et moi, je l'ai abordé, je vous ai dit, le silence... Ça m'a toujours taraudé dans la vie parce que j'avais fait un film qui s'appelait 70 ans de silence. C'était en Espagne, enfin dans ma famille, comme j'ai des origines espagnoles. Et il y avait ce silence-là. Quand j'avais projeté à Ciné 32 de la retirada à la Reconquista, et les gens, à la fin, ils venaient me voir, certains pleuraient, d'autres me remerciaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais comme film, quoi? Et en fait, ils m'ont dit, ben, nous, on a vécu ça, nos parents n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé de ce que vous avez raconté, ils ne nous en ont pas parlé. Et voilà, quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu continuer sur ce 70 ans de silence, et ou des années de silence. Pour moi, on revient à la même chose. On ne parle pas parce qu'on a peur, ou parce qu'on a peur des conséquences, et voilà, quoi. On parle pas. C'est intérieur, peut-être.
C'est pas nouveau, le silence, hein.
Non, c'est
plein
pas nouveau.
Plein de gens vous diront que quand les gens sont revenus des camps de concentration, les quelques-uns qui sont revenus, ils n'en parlaient pas, et puis on leur posait pas des questions. Ça fait trop mal de poser des questions. Comment t'as été traité? Moi, je me rappelle le jour de la foire de Saint-Cerlin, où je portais ce fameux paquetage à la gendarmerie, et que tout le monde savait que quand tu reportais le paquetage, puisque tu étais venu en militaire, et que tu ramenais les habits militaires, tout le monde savait, à l'époque, il y avait le service militaire, tout le monde savait que j'avais fini la guerre, que j'avais fini le service militaire, je ne sais pas comment ils l'appelaient. Mais personne ne te demandait rien.
Il y avait du mépris.
Ils ne te demandaient rien. Alors, il y en a un qui te demandait si les gazelles couraient court dans le désert. Mais c'est tout. Si les filles étaient belles là-bas, si elles étaient volées. Mais jamais une question sur la guerre. Et ça dérange, ça fait peur. Aujourd'hui, ça serait peut-être pareil si un type il allait en Ukraine et qu'il revient. Il ne voudrait pas le raconter, tellement c'est terrible. Enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire, que ça, c'est pas un conseil, c'est un ordre. N'allez pas à la guerre.
Faites pas la guerre.
N'allez pas à la guerre, vous vous cachez, vous faites, je sais pas quoi, faites des cabanes dans les bois, vous faites un truc, vous n'allez pas à la guerre. Et si personne ne va à la guerre, ils pourront pas, ils la feront pas, parce que c'est pas ceux qui la commandent qui la feront, ils auront trop peur de mourir.
Bien vu.
J'ai une question à M. Navarro. En fait, la filmographie concernant la guerre d'Algérie, il suit un peu l'évolution de la mémoire, en tout cas des combattants de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a cette longue période de silence. Et actuellement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de productions cinématographiques ou documentaires sur ce thème-là? Et également, quel est l'avis de votre film actuellement? Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture pour le diffuser, ou est-ce que vous sentez encore aujourd'hui des réticences?
Oui, il y a des réticences, mais pas venant du public. Il y a des réticences par rapport à l'autre association à qui j'ai envoyé le film et qui ne sont pas du tout contents que j'ai fait ce film-là. Parce que ils croient que j'ai voulu faire un film de promotion pour la 4ACG. Avec, je reviens vers mes films espagnols, ils ont été diffusés un peu partout, Ciné 32, à Mirande, à Florence, partout où je suis passé avec ces films, ils me l'ont pris le film. Mais ailleurs, ils ont peur de le prendre. Ça leur fait peur, je ne sais pas. Il y a un problème. Ou alors ils ont eu des ordres. Parce que je vais vous donner une anecdote. À côté de Toulouse, il y a un village là. Le gars, il me dit, bon, ben, venez nous expliquer ce qu'il y a dans votre film. J'y vais, moi, tranquille, ils étaient une vingtaine autour de la table. Et ils me disent, oui, bon, il faut que... C'est bien, et je leur ai expliqué exactement ce qu'il y avait dans le film, les appels qui vont... Mais il l'avait regardé, le gars, parce que j'avais envoyé un lien. Et ils m'ont pas dit qu'ils m'invitaient ou pas, hein, pour le projet. J'appelle au bout d'un mois, et me dit, oh, mais monsieur, c'est plus long que ça, il faut qu'on prenne la décision, patati patata. Mais j'ai compris que j'étais au milieu de la fin d'accord.
Ce qui est surprenant, c'est que quand on voit votre film, Monsieur Navarro, et pour avoir travaillé avec la FNACA sur différents projets, quand on lit les témoignages et quand on regarde les témoignages et quand on rencontre des gens de la FNACA, pour beaucoup, finalement, le vécu et les témoignages se rejoignent.
Oui, voilà. Évidemment.
Voilà, donc,
Oui, bien sûr, bien sûr. L'autre jour, à Dufort, il y avait 15-20 appelés. Mais les gens, je leur ai pas demandé, moi quand j'ai fait le film, je leur ai pas demandé s'ils étaient à FNACA ou à la 4ACG. Ça m'était égal, complètement égal, qu'ils soient à ce qui. Mais eux, ils ne le voient pas comme ça, du moins les dirigeants. Hein. Les appelés, il n'y en a aucun qui m'a critiqué. Mais les responsables d'une association, là, ou
il y a une concurrence entre les associations, probablement.
Ou une concurrence, non, je sais pas. Ils en veulent à la 4ACG, et la 4ACG en veut à la FNACA.
Non.
Ah, mais...
Plus de visibilité que d'autres. Oui. Quelque part, vous avez l'illustration de ce que Benjamin Stora a appelé le conflit de mémoire. Hein. C'est-à-dire que... Il peut y avoir des divergences entre l'Algérie et la France de part et d'autre de la Méditerranée en matière de mémoire et de la façon dont on met en avant ce conflit. Mais chez les acteurs de chaque côté de la Méditerranée aussi, il peut y avoir encore des tensions et des clivages. Ouais.
Oui, mais moi, je ne veux pas faire la guerre ni avec les uns ni avec les autres. Je les laisse dans leur...
Tous les deux ans, il y a un pèlerinage de la FNACA. La FNACA, ce n'est pas des guignols comme nous, hein. Ils ont 350 000. Les 350 000 sur 2005, c'est tout à fait possible. Hein. Ce n'est pas des chiffres inventés. Donc tous les deux ans, ils ont un pèlerinage à Lourdes. Et il y a deux ans, nous étions allés, ils étaient 25 000 pèlerins. C'est très bien organisé, tu peux essayer de retrouver des copains, il y a tout ça. Et puis il y en a qui prient, il y a tout. Et alors on était allés là-bas pour distribuer des tracts. Mais ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'on nous découvre. Et quand on nous a découvert, le petit appelé, qui était beaucoup paysan à l'époque, ou artisan, il prenait un trac, il le jetait à la poubelle, ou il en faisait ce qu'il voulait, mais en tout cas, il n'avait pas eu de nuit. Et puis il t'amène des gens avec des médailles pleines de la poitrine. Là. Et alors là, il a dit, qu'est-ce que vous foutez là? Et alors on a essayé de dire qu'on était contre la guerre, et que voilà, et qu'on distribuait des tracts, et celui qui voulait adhérer à l'association, et bien, il adhérait. C'est avec des gens comme vous qu'on a perdu la guerre. Alors vous dégagez de là, on appelle les flics. Et ils ont appelé les flics. Alors bon, on est parti, moi je ne voulais pas partir, mais on était cinq. Et certains ont eu peur d'être qu'on soit mis en garde à vue. Moi ça ne me faisait pas peur, certains n'ont pas voulu aller en prison. Donc on est parti, mais voilà, c'est tant que c'était des appelés, des appelés de deuxième classe, ça allait. Quand les gradiers de l'époque s'en sont mêlés, ça n'a pas été pareil. Donc on ne veut pas des gens comme nous, on ne veut pas des gens pacifistes. Il n'y a pas que là, vous voyez bien les manifestations aujourd'hui qu'il y a, et les pacifistes, on ne les veut pas. C'est des gens qui font de la guerre. On a l'actualité qui est quand même parlante.
Bien. Avez-vous d'autres questions ou des remarques? Dans ces conditions-là, il me semble qu'est venu de clore cet échange et cette rencontre. En disant un grand merci à monsieur Serre d'être venu témoigner. je pense qu'avec votre témoignage, pour montrer la complexité de ce que fut ce conflit. Et je voulais également vous remercier, Monsieur Navarro, d'avoir accepté de partager avec nous votre travail, votre recueil de témoignages qui est vraiment précieux et qui est bouleversant, hein, on peut le dire. Hein, pendant le visionnage, on l'a bien senti à plusieurs reprises. Je souhaite également remercier Madame Josse qui a fait cette proposition et qui a pensé à vous comme public possible pour cette rencontre dont elle va faire une production radiophonique. Et je voulais aussi remercier Madame Dufard qui nous a mis en relation et a permis cette riche rencontre. Merci.
À mon tour, j'aimerais vous remercier tous les deux et vous, monsieur.
Et merci à vous pour votre attention et pour vos questions.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour Média Commun Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.